France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Merci, Sandin de Hausi.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Que faut-il croire et comprendre de la vision du monde de Donald Trump après son discours à Davos? Que croit-il être l'OTAN? Que croit-il être l'Europe? Que croit-il être le réel aussi, lui qui a brossé un portrait du monde et des États-Unis assez ahurissant? C'est ce qu'on va essayer de ramasser un peu et comprendre avec Thomas Negaroff. Savez-vous que le Canada a un au cas où dans ses tiroirs, au cas où Trump reviendrait sur son idée d'en faire un État américain? C'est ce que nous racontera Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage vous convie à une marche sans téléphone ou un dîner sans téléphone, à moins que ce soit un apéro, un effort quoi. Ça s'appelle le Club Offline. On en a aussi, celui-ci est en Allemagne.
J'essaie de me sortir de cette addiction, mais ce n'est pas facile parce que tout passe par le téléphone. Le numérique nous empêche de sortir et d'explorer le monde réel.
À découvrir ensemble autour de 18h42, sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Iran qui anticipe sur les sanctions supplémentaires à venir émises sur les cryptos. Et puis juste avant 19h, Ilana Mor-Youssef qui lit et relit au fil de l'actualité a trouvé un livre qui s'appelle Groenland, le pays qui n'était pas à vendre, sorti en octobre dernier. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable.
Certains pays d'Europe ne sont plus reconnaissables, ils sont même méconnaissables. Nous pouvons en débattre, mais il n'y a pas matière à débattre. J'aime l'Europe, je veux que l'Europe aille bien, mais elle ne va pas du tout dans la bonne direction. Bonsoir Thomas Negaroff.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes historien, producteur ici du Grand Face à Face tous les dimanches sur France 5 dans C'est politique. C'est compliqué de débriefer un discours de Donald Trump, oui, de ce type-là, même avec le recul et même s'il nous a habitués à beaucoup de choses assez décousues, en fait, aux idées qui s'enchaînent bizarrement, mais quand même, au milieu de cette espèce de brouhaha, il y a une vision du monde, il y a aussi un rapport au réel. Je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à ça, la peinture qu'il fait de son pays, la peinture qu'il fait de sa place, la peinture qu'il fait de tout au fond, est totalement hors sol. Qu'est-ce que ça dit de lui, d'abord, ça ?
Ça dit qu'il projette ses fantasmes et ses cauchemars sur nous. Je l'ai écouté aussi, alors vous avez toute une journée sur les écrans, nous avons toute une journée sur tous les écrans, j'ai passé beaucoup d'heures devant les écrans avec lui, mais c'est un autre écran hier, dans la conférence de presse, où il y a une illustration parfaite de ce que vous dites. Il parle du Minnesota, il dit oui, il y a des tueurs partout dans les rues, vous ne le savez pas, mais ça existe. Et il y a toujours cette idée-là qu'il est celui qui révèle ce qui n'existe pas. C'est ce que Peter Thiel avait appelé l'apocalypse, selon Trump, celui qui révèle tout ce qui est secret et tout ce qui est caché. Et ça, c'est un truc très puissant chez lui. C'est pas tellement « je ne suis pas dans le réel », c'est « vous n'êtes pas dans le réel ». Et moi, je suis dans le réel. C'est là où il nous prend un revers, c'est qu'on se dit, il raconte n'importe quoi, mais pour lui et pour ceux qui le suivent, il dit le réel là où nous sommes hors sol. Et donc, il inverse tout. Et l'un des grands... Je trouve qu'après un an de Trump, il a tout délégitimé. Et l'une des délégitimations les plus puissantes, c'est celle-là. Celle de ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est assez orwellien. La paix, c'est la guerre. Ouais. Le vrai, c'est le faux. On est vraiment dans ce monde-là avec lui.
Il nous avait habitués, il nous a même initiés, j'allais dire, à la vérité alternative. Ouais. C'était au premier mandat. On a l'impression qu'on est passé au 2.0 de la vérité alternative, en fait, d'une certaine façon.
C'est ce qu'on appelle la post-réalité. Ouais, c'est vraiment chacun a sa réalité. Et lui détient la véritable réalité, celle que vous ne voyez pas, parce qu'on ne veut pas que vous la voyez, et moi, qui suis quasiment une figure christique, je vais la révéler pour vous.
Mais moi,
c'est très puissant, parce que ça peut fonctionner.
Mais j'ai quand même le sentiment, alors ça peut fonctionner, c'était le sens de ma question. Moi j'ai même tendance à croire quand même que même les Américains les plus trumpistes ne vont pas jusqu'à croire. Je pense au premier quart d'heure par exemple, où il nous raconte combien tout va bien aux États-Unis dans tous les compartiments, même le plus maga de tous les magas, à un moment sait que c'est pas vrai en fait.
C'est vrai. Mais n'oubliez pas, et vous le savez aussi bien que moi Fabienne, que ce pays repose sur un rêve. On oublie toujours ça, mais les États-Unis ne cessent de parler du rêve américain. Et souvent les journalistes me posent la question, mais est-ce que le rêve américain existe encore? Est-ce que c'est pas plutôt un cauchemar les États-Unis aujourd'hui quand on voit la réalité? Mais peu importe. Le président américain, son travail, et je le dis, mais d'autres l'ont dit avec moi, avant moi, vous pouvez retrouver en podcast Gilles Deleuze et ses cours de philosophie, il y en a un génial sur le rêve américain, où il dit que la fonction notamment du président américain, c'est de maintenir ce rêve. Et il est le rêveur en chef, celui qui doit surtout empêcher que les Américains se réveillent. Alors effectivement, parfois ils se réveillent. Et quand ils n'arrivent pas à remplir leur caddie, là, le rêve américain, il se heurte à un réel. Mais tout de même, cette nation construite sur l'onirisme, eh bien, il essaye de la faire vivre encore. C'est assez, pour nous, qui sommes rationnels, européens, totalement hors sol et lunaire, hors sol, vous l'avez dit, lui, c'est un autre sol, celui du rêve.
Et en même temps, si on regarde sur le fond, par exemple, s'agissant du Groenland, puisque c'est ce qu'on attendait, il ne dit pas que le Groenland sera pris par la force. Il dit même, si vous nous le donnez, c'est bien, si vous nous le donnez, vous verrez. Donc on sent bien qu'il y a zéro plan B, en fait, ou en tout cas, on verra bien, il va bien inventer quelque chose, mais de fait, à ce moment-là, il n'y a pas de plan B. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que quand même, de temps en temps, le réel lui tape sur l'épaule?
Oui.
En fait.
Alors, ce qui est frappant, c'est que quel réel lui tape sur l'épaule?
Exactement. Et est-ce qu'il a un nom, ce réel, en fait?
Bah oui, ça s'appelle le Dow Jones. C'est ça qui, je trouve, c'est ça qui est le plus vertigineux dans cette histoire. Et ça raconte aussi ce qu'il est. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des Européens qui, en face, lui disent nous allons sortir le bazooka, des mesures de rétorsion, la Cour suprême, les élus du Congrès, les sénateurs, donc les contre-pouvoirs. Et le seul contre-pouvoir qui fonctionne, c'est le Dow Jones. C'est quand même frappant. Et tout à l'heure, je regardais sur CNN le discours de Trump à Davos. Et CNN, parfois, il dézoome. Et il montre.
Absolument.
Vous l'avez vu aussi,
bien sûr.
Et
la bourse, juste à côté.
Et il montre la bourse.
L'état
du
Nasdaq, l'état du Dow Jones, l'état de tout ça.
Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tout le monde sait que le Dow Jones, c'est pas la vérité. C'est-à-dire que les cours de la bourse sont réels, bien sûr. Mais la fabrication des cours, c'est pas la réalité. Vous savez, Keynes disait dans les années 30, comment fonctionne la bourse? Il dit, la bourse, c'est un concours de beauté. Personne ne pense que on doit acheter le meilleur produit, on doit acheter celui que les autres pensent être le meilleur produit. Donc, même ça, c'est pas de la vérité. Et pourtant, c'est le réel qui s'impose à lui.
En même temps, ce qui m'a fasciné, parce qu'on a regardé effectivement sur CNN l'un comme l'autre, on voit au début, il parle d'économie, on voit que les chiffres sont dans le rouge et descendent. Même plan, quelques minutes plus tard, les chiffres sont dans le vert et remontent. Ouais. Donc, ça veut dire que la bourse, le Dow Jones et les autres, en écoutant des choses qu'ils savent fausses, exactement ce que vous venez de nous décrire, grimpent de toute façon.
Mais oui, juste, le concours de beauté, c'est quoi? Keynes dit, j'ai reçu, pour expliquer ce qu'est la bourse, il dit, j'ai reçu dans mon journal un concours de beauté. Et avec des femmes. C'est très années 30, hein, c'est moi aujourd'hui.
Ouais.
Et il faut choisir celle qui sera la plus belle pour les gens. Et il dit, tous les gens vont choisir, non pas celle qu'ils pensent être la plus belle, mais celle qu'ils pensent que les autres vont choisir comme être la plus belle, parce que c'est celle-là qui va gagner. Et à la fin, c'est pas la plus belle qui gagne, celle que les autres. Et c'est ça la spéculation, c'est ça la bourse. Et je trouve ça frappant et presque fascinant que ce soit ça son critère. Et puis autre chose, et il ne parle que d'audience, etc., Trump, c'est les résultats en direct. C'est ce que François Hartog appelle le présentisme. Ce qui compte, c'est que maintenant, le présent est l'effet du présent. Ça, c'est aussi frappant.
Alors, il nous donne aussi effectivement sa vision du monde. Au milieu de ce brouhaha, on entend cette vision-là, on entend sa vision de l'OTAN. Moi, j'ai vraiment entendu on vous a tout donné, on a tout fait. Alors, grâce à nous, vous ne parlez pas allemand, etc. On avait ça entendu.
Exceptionnel.
On l'a déjà entendu beaucoup de fois quand même. Là, pareil, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la vérité alternative qui est devenue la post-réalité. Là, on est à quel niveau par rapport à sa vision de l'OTAN et du reste du monde, en fait, si
alors,
on rentre sur une marche?
On est dans la vision toujours du dealmaker, mais avec l'idée complètement fausse que c'est quand même dingue d'imaginer un président américain dire depuis 80 ans, on a tout fait pour vous, maintenant vous pouvez au moins nous filer le Groenland. Ce qui est historiquement délirant, parce que dès l'origine même de la construction européenne, Gérard Bossuat, historien très fort de l'Europe, dit l'Europe a été construite sous l'amicale et ferme pression américaine. Le plan Marshall lui-même, c'est pas un cadeau, c'est juste pour éviter la surproduction aux États-Unis et réduire le problème du manque de dollars en Europe. Et toute l'histoire a été ainsi. Quand il dit « nous avons dépensé 100% pour l'OTAN », mais au maximum, les Américains, et c'est déjà beaucoup, ont dépensé 25 à 26% de l'ensemble du budget de l'OTAN, donc c'est faux. Mais il impose cette vérité, et il impose, ça on le connaît depuis 2016, l'idée de la victimisation. Nous avons tout fait pour vous, vous pouvez au moins faire ça pour nous, vous êtes vraiment des ingrats. Et au-delà de ça, il y a, et peut-être on va y venir aussi, sur l'image qu'il a de nous, les Européens.
On allait y aller, mais allez-y donc, du coup, effectivement.
Non, mais elle est catastrophique, cette image. Ça ressemble un peu à l'image qu'il avait des États-Unis en 2016, dans son discours, on était ensemble à Washington, où il prononce ce discours dingue sur le marécage, le cauchemar américain. Là, c'est nous.
Et en même temps, alors nous n'allons pas dans la bonne direction, c'est bien dommage, etc. Mais il est beaucoup moins virulent, en tout cas il est moins guerre culturelle que J.D. Vance l'a été à Munich pour nous parler. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'a pas les armes intellectuelles pour structurer ce discours-là? Parce que Vance, lui, est un idéologue qui sait structurer ça. Et au fond, il nous dit exactement la même chose ou pas?
Oui, il nous dit la même chose. C'est le document stratégique de décembre 2025 où il y a le risque d'effacement civilisationnel de l'Europe. Il y a un truc incroyable que j'ai lu sous la prose de Stephen Miller, qui est l'un des conseillers à la sécurité nationale de Trump, l'un des plus idéologues, allez, les plus racistes de l'administration Trump, très suprémaciste. Et au moment du Groenland, il a tweeté, enfin il a xé, je ne sais pas comment le dire, un long texte dans lequel il explique que le problème de l'Europe, ce n'est pas d'avoir colonisé, c'est d'avoir décolonisé. Mmh. Parce qu'en décolonisant, on s'est fait ensuite envahir, grand remplacement, par les peuples qu'on avait colonisés. Et il justifie ça pour dire à nous maintenant de coloniser. Parce que la colonisation, pour lui, et donc pour les Américains d'aujourd'hui, c'est le moyen de protéger la civilisation occidentale. Avec un immense paradoxe, qui est d'un Trump qui dit « je défends la civilisation occidentale », tout en éclatant, faisant exploser l'Alliance Atlantique, qui était quand même le cœur de l'Occident politique et géopolitique.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ça maintenant, Thomas Negaroff ? Parce que au-delà de, parce que là pour le coup là-dessus, la raison là de l'emprise économique que entre les États-Unis et nous, au-delà même de notre dépendance aux GAFAM, etc. Enfin, nous séparer est évidemment beaucoup plus compliqué que simplement le dire. Mais nous séparer culturellement, séparer ce que vous appelez vous la promesse commune, est-ce que ça c'est possible ? Est-ce qu'on est déjà là en fait ? Est-ce que désormais il y a effectivement un océan entre les États-Unis et nous ?
Mais c'est ça qui est frappant en fait. Tout le monde dit aujourd'hui, on est en train de clore 80 ans d'histoire. En fait, non. On est l'aboutissement de 80 ans d'histoire. Parce que aujourd'hui, pourquoi sommes-nous une colonie numérique américaine ? Pourquoi sommes-nous vassalisés ? Peut-être heureux ou malheureux, mais vassalisés. Parce qu'il y a 80 ans d'américanisation, 80 ans de soft power, 80 ans d'economic power, 80 ans de hard power aussi. Et tout cela produit la situation dans laquelle on est aujourd'hui d'une dépendance total. Alors on peut sauter sur notre chaise et espérer une décolonisation numérique, mais arrêtons d'utiliser nos téléphones, arrêtons, changeons tout le matériel de ce studio ici, parce qu'il est absolument dépendant de la production américaine.
Et culturel, Thomas, est-ce que on peut décider, nous, est-ce que au fond les États-Unis ont renoncé de toute façon à leur soft power, et nous pouvons nous aussi renoncer à leur soft power en fait, ou est-ce que ce sera la dernière question de derrière la vie de les voir faire des grands gestes, ou est-ce que au fond de ce lien-là non plus on ne peut pas se défaire.
Bah c'est un lien très difficile parce que le lien de l'américanisation culturelle il est incroyablement profond. Je sais pas ce que vous allez faire ce soir, mais il y a de grandes chances que vous regardiez un produit culturel américain. Donc même si les États-Unis en tant qu'administration a cessé de dépenser de l'argent pour la culture américaine, elle existe, elle est là. Effectivement, l'un des enjeux, mais après, quel est le contre-modèle ? Y a-t-il une culture européenne de ce niveau-là ? Et donc ça pose la question majeure, et on s'arrête avec ça j'imagine, mais la question de l'unité européenne. On en revient toujours là. Doit-on, dans un monde d'empire, devenir un empire ? Et peut-on devenir un empire ? Ça sera un autre moment.
Très clairement, et peut-être un peu plus long même. Thomas, merci beaucoup. La conspiration, un fasciste à la Maison-Blanche, c'est votre roman, vous le signez chez Albin Michel, et puis je le dis, si certains ont leurs agendas en main, à partir du 20 février, vous serez au Théâtre de la Pépinière. C'est au Théâtre de la Pépinière ?
Absolument.
Ouais, voilà. Il ne mérite pas...
Tes larmes,
voilà, pardon, j'ai écrit n'importe comment.
Il ne mérite pas tes larmes.
Exactement, histoire de ségrégation, on sera ravis de venir vous voir et de vous écouter. Merci Thomas. La suite, c'est vous, Louise Baudet, c'est Le Monde à l'endroit.
Ouais, on parlait à l'instant de la puissance de la fiction américaine. À propos de fiction, l'armée canadienne modélise très sérieusement une invasion militaire des États-Unis.
C'est juste après ça. Susan Tarabit. Ce sont des Hollandais qui jouent du psyché indonésien. C'est dans la playlist d'Inter avec Tamat. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Un bout de glace en échange de la paix mondiale. Voilà le deal. Donc, on en parlait un instant, que Donald Trump veut imposer à l'Europe. Mais après le Groenland, à qui le tour? Eh bien, le Canada se prépare à être le prochain sur la liste.
Eh oui, le Canada, 51e État américain. Pendant que Donald Trump donne vie à son fantasme et publie des photos générées par IA qui le montrent dans le bureau ovale, devant une carte où le drapeau américain flotte sur le Groenland, le Venezuela et le Canada, eh bien, l'armée canadienne modélise très sérieusement une invasion militaire américaine. Scénario jugé certes très improbable par les gradés qui ont révélé l'affaire au quotidien canadien Globe and Mail, reste qu'il imagine très concrètement une offensive depuis le sud, des forces américaines qui prennent le dessus en moins d'une semaine, voire en seulement deux jours, puis une guerre non conventionnelle avec embuscades, sabotages, attaques de drones et tactiques de guérilla calquées sur celles des Moudjahidines, puis des talibans en Afghanistan.
Ce scénario est-il vraiment sérieux ?
Alors, il ne s'agit pas d'un plan opérationnel, mais d'un modèle censé alimenter la réflexion stratégique. Enfin, quand même, pour la première fois depuis plus d'un siècle, le Canada théorise une invasion américaine au moment même où le Premier ministre canadien donne de la voix. Mark Carney, ovationné hier à Davos, où il a appelé le monde à cesser de vivre dans le mensonge, mensonge d'un ordre international fondé sur des règles qui étaient une fiction utile face au réveil des grandes puissances qui ne font même plus semblant. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, dit encore Mark Carney, car si nous ne sommes pas à la table, nous serons au menu.
Alors parmi ces puissances moyennes, Louise, il y a les Européens, sont-ils aussi lucides?
Alors pour tout le monde, le réveil est brutal, y compris pour Emmanuel Macron qui monte en première ligne pour défendre la souveraineté du Groenland et préfère le respect au brut et l'état de droit à la brutalité. Parole conforme à la tradition gaulo-mitterrandienne d'une France dotée de l'arme nucléaire et donc d'une voix à part. Mais il a juste joué les durs, Emmanuel Macron, lui qui ne sera bientôt plus au pouvoir, se moque le président américain qui ne manque plus une occasion de le ridiculiser. La fin, là aussi, d'une illusion, celle d'une bromance entre les deux chefs d'État, d'une capacité particulière d'Emmanuel Macron à comprendre et à parler le même langage que Trump, eux qui sont tous deux arrivés au pouvoir en 2017 en cassant les codes. Le président français a encore tenté hier de ramener son ami Donald dans le cadre, celui du G7, sans succès.
Et d'autres continuent de flatter l'ego de Donald Trump, parfois jusqu'à la caricature.
Oui, par calcul ou par obligation, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, continue de brosser dans le sens du poil un président américain décidément formidable. Et il n'est pas le seul à plaider pour une diplomatie réfléchie et à refuser la confrontation directe. À Bruxelles, à Berlin, à Rome, le degré d'opposition est en ce moment soigneusement sous-pesé. Les 27 se sont donné rendez-vous demain soir pour s'accorder sur une riposte. Il est peu probable qu'ils suivent le conseil de Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, qui les exhorte à ne plus chercher à apaiser Trump, mais à combattre le feu par le feu, quitte à se préparer au pire, comme le fait le Canada, voisin et peut-être prochaine cible du nouvel impérialisme américain.
Louise Baudet, merci beaucoup, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Allemagne. Ce soir, en cette journée spéciale écran sur France Inter, ou comment décrocher, vous allez entrer dans le club offline de Berlin qui propose des expériences de déconnexion, des apéritifs, des dîners sans téléphone ou comme dimanche dernier, donc une marche. En pleine nature, une détox digitale pour reprendre le contrôle. L'occasion aussi de parler de son usage des écrans. La suite, c'est Sébastien Baer qui raconte.
Ils sont une vingtaine de 23 à 45 ans. Tous ont accepté la même règle, éteindre les téléphones portables, les laisser au fond du sac pendant les deux heures de randonnée dans cette forêt de l'est de Berlin. Une parenthèse numérique bienvenue pour Alexia, l'une des participantes.
J'ai vu ce rendez-vous sur mon fil Instagram. Je me suis dit que c'était une très bonne occasion de me vider l'esprit et de marcher dans cette forêt avec d'autres personnes. Et je suis très, très intriguée par cette idée de ranger les téléphones et de voir ce qu'il se passe.
Pendant les trois premiers quarts d'heure, les participants sont invités à marcher en silence, à écouter le crissement de la neige sous les pas, le craquement des branches, le frôlement des manteaux. Vebash, un Indien de 23 ans qui fait ses études à Berlin, apprécie ces premiers instants.
J'attendais avec impatience cette promenade déconnectée. Pour être très honnête, je passe 8 à 10 heures par jour en moyenne sur mon téléphone et c'est très préoccupant. Je suis accro au téléphone. J'essaie de me sortir de cette addiction, mais ce n'est pas facile parce que tout passe par le téléphone. Le réveil, Google Maps, l'achat de billets de cinéma, la réservation d'un restaurant. Le numérique nous empêche de sortir et d'explorer le monde réel.
Peu à peu, la conversation s'engage, guidée par les questions que l'organisatrice a distribuées. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir là aujourd'hui? Quelle est ton activité déconnectée préférée? Shenga, qui passe 2 à 4 heures par jour sur son téléphone, ne sait pas vraiment quoi répondre.
J'ai 30 ans et j'ai commencé à utiliser Instagram quand j'avais 16 ans. Si je réfléchis à ce que je faisais avant d'avoir les réseaux sociaux sur mon téléphone, honnêtement, je ne me souviens plus. Je ne sais plus comment je communiquais et comment je passais du temps avec mes amis. Ce n'est pas bien. Je n'aime pas cette idée. C'est pour ça que je suis ici, pour trouver d'autres moyens de communiquer avec les autres.
Les regards se posent sur les arbres et les bateaux prisonniers des eaux gelées de l'Achepré, la rivière qui traverse Berlin. Pas de musique pour remplir le vide, pas de sonnerie intempestive. Daisy, qui a déjà participé à plusieurs des événements du club offline de Berlin, glisse quelques conseils.
Moi, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc. Donc, psychologiquement, ça le rend moins attrayant. Et parfois, je le laisse aussi se décharger. Et je consacre mon temps à quelque chose d'autre, comme lire ou rencontrer un ami. Il ne faut pas rester assis à ne rien faire, sinon ça donne envie de prendre son téléphone.
Après 2 heures de marche dans le froid, les participants partagent une boisson chaude autour d'un feu au bord de l'Achepré. Jim, ingénieur de 33 ans, est presque surpris d'avoir résisté à la tentation.
Au début, j'ai sorti mon téléphone 2 fois et je me suis dit « Oh, il est éteint, pourquoi est-ce que je fais ça ?» Après, vous vous habituez, c'est enregistré dans votre cerveau. Et ce n'est pas si compliqué parce que vous êtes pris en permanence par les conversations et vous rencontrez d'autres personnes. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux ici, dans la nature, plutôt que d'être chez moi, devant un écran, comme je le fais toujours. Parce que cela n'a aucun sens. Je peux scroller pendant 1 heure et après, je n'ai plus aucune idée de ce que j'ai regardé. C'est juste une énorme perte de temps.
Et Jay, 29 ans, a retrouvé, elle, un plaisir simple, presque oublié.
Je ne marche jamais comme ça, dans le silence. Si je suis seule, j'ai besoin d'être connectée à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, toutes les 20 ou 30 minutes. Être seule avec moi-même, c'est nouveau pour moi. C'est juste vous et la nature. J'ai remarqué des choses auxquelles je n'aurais pas fait attention autrement. Les arbres, les feuilles, les recoins de la forêt. C'est donc une expérience vraiment différente et je l'apprécie beaucoup.
Au moment du départ, les téléphones ressortent peu à peu des sacs, les écrans s'illuminent, quelques bips signalent l'arrivée de messages et les notifications. L'une des participantes se fait une promesse, ne plus toucher à son téléphone jusqu'au lendemain matin.
Allez, Sébastien Bayer pour le reportage. Merci beaucoup. Gardez ces témoignages en tête, on en reparle tout à l'heure dans Le Téléphone Sonne. Le 18-20, la suite, c'est vous Guillaume Audat, et sous les radars.
Et bien justement, sous les radars, à Hanoï, où le Parti communiste vietnamien a mis tous ses dignitaires sous cloche numérique, et je vous dirai pourquoi.
Et puis Ilana Mor-Youssef qui lit chaque semaine des livres qui éclairent le monde, Ilana.
Nous, on se demandera combien coûte un pays, peuple compris, puisque c'est la nouvelle tendance.
Allez, à tout de suite, restez avec nous. Les amis, le tour de la planète fait un détour par Cuba avec les jumelles franco-cubaines d'IBI. La chanson, c'est River et elle a déjà 10 ans.
Wash my soul.
I will come to you, river.
Wash my soul.
I will come to you, river.
Wash my soul again.
Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them, river.
River, I will come to you, river. I will come to you, river. wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Take my pains and complaints. Let the river take them. River drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me's so ashamed. Let the river take them. River drown them.
Les sœurs, j'allais dire les frangines, pareil. D.I.B.I. et River sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le voilà qui émerge de sous les radars, c'est Guillaume Audin.
The Iranian government has been using cryptocurrency to avoid sanctions from the US and to create.
Après la répression, Guillaume, le régime de Téhéran anticipe déjà les sanctions et convertit à toute allure une partie de ses réserves en crypto-monnaie.
Et ceci afin de les contourner, ces sanctions. Elles sont déjà massives et d'autres frapperont l'Iran. Après la répression brutale du mouvement de contestation, 12, peut-être 16 000 morts, disait la semaine dernière à votre micro, Fabienne, le journaliste Armin Arefi. Les classiques de ce régime sanguinaire préparent la suite, évidemment, leur survie politique tout autant que financière. Elliptique, une société spécialisée dans les crypto-monnaies, a enregistré, je cite, un processus d'accumulation systématique de crypto par la banque centrale iranienne. Non pas des bitcoins, mais des tethers indexés sur le dollar et donc facilement convertibles. En Iran, la monnaie nationale s'est effondrée. L'inflation est galopante, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, sauf qu'au-delà du sang qu'il a fait couler, des libertés qu'il a supprimées, le régime n'a aucune réponse économique à apporter. Les Iraniens sont étranglés, punis et souvent pendus, mais la colère demeure, elle n'a pas disparu.
Xin kính mời các đồng chí đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Nous sommes à Hanoï, au Vietnam, où le speaker vient de demander à l'assistante de se lever pour l'hymne national.
14e congrès du Parti communiste vietnamien et à l'intérieur d'une immense salle, 1600 dignitaires, debout et droits comme des i, on les entend entonner en chœur le Tien Quan Ca, la marche de l'armée. Notre drapeau porte la couleur du sang, celle de la victoire, le chemin de notre gloire se pave de cadavres, on dirait presque la Marseillaise.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Mais ça, c'est pour la note d'ambiance. Au-delà, il faut dire que cette année, le Parti communiste vietnamien se drape d'un voile de paranoïa. Pas d'internet, pas de téléphone portable. Les communications avec l'extérieur sont proscrites jusqu'à dimanche prochain et les journalistes ont interdiction de causer la moindre entorse ou le moindre tort au régime dans leur compte-rendu. Que font-ils, ces dignitaires, me demanderez-vous, sous cloche numérique, ils élisent le numéro 1 du Vietnam pour la prochaine décennie. Tô Lam, le secrétaire général du Parti communiste, se représente. Il devrait être reconfirmé. Il veut plus de pouvoir pour accélérer dans le secteur des IA, notamment un ambitieux, dit-on, qui se rêve en monstre de Frankenstein, une créature politique hybride située quelque part entre Xi Jinping et Poutine.
We are in the middle of hybrid warfare.
Paranoïa toujours, cette fois-ci du côté de la Commission européenne qui entend muscler sa cybersécurité.
Vous étiez hier à Strasbourg, Fabienne, et vous aviez beaucoup à faire avec nos eurodéputés, avec le Groenland d'une part, le Mercosur de l'autre. Mais peut-être aviez-vous laissé traîner vos oreilles du côté de chez Elina Virkkunen, commissaire finlandaise en charge de la souveraineté technologique. Elle a dit deux choses. Et une troisième, sans ne jamais ne désigner l'adversaire, prudente, la vice-présidente en ces temps géopolitiques très agités. Premier point, l'Europe fait face à des cyberattaques quotidiennes vivant ses institutions, menées, je cite, par des groupes étatiques sophistiqués. Deuxième point, la Commission va renforcer son Cyber Security Act, qui est visé, et c'est le troisième point, mais ça n'est pas formulé expressément pour éviter de les froisser, la firme Huawei, vous avez peut-être un de ces téléphones dans votre poche. L'équipementier chinois est régulièrement soupçonné d'espionnage au profit de Pékin et pourrait voir ses produits écartés des infrastructures critiques européennes. Petit bonbon pour finir, plusieurs journalistes ont également questionné opportunément la commissaire sur la cybermenace que fait désormais peser l'Amérique de Trump. Et là encore, elle a refusé de nommer l'adversaire.
Guillaume Audin, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mercredi, c'est Ilana Mor-Youssef qui lit et relit les livres au fil de l'actualité. Ça s'appelle Écrire le Monde.
France Inter.
The Mass Clubes de Lectura.
The newest selection of Jones Book Club.
Un jour dans le monde.
Alors Hélène, c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 ans, personne ou presque ne parlait du Groenland, sauf de temps en temps pour évoquer le réchauffement climatique et la fonte des glaciers. Or, voilà que le Groenland est devenu l'épicentre de la crise géopolitique qui secoue la planète.
Oui, et je ne sais pas pour vous Fabienne, mais moi je me réveille tous les matins en me demandant ce que Donald Trump a pu bien inventer pendant la nuit. Et ce matin, outre le fait qu'il a expliqué que Dieu aime ce qu'il fait, c'était ça.
How far are you willing to go to acquire Greenland?
You'll find out.
Alors voilà, il parlait du Groenland. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Lui demande le journaliste. Vous verrez bien, dit Trump. Alors en attendant de savoir ce que nous réservent les semaines à venir, j'ai cherché un roman qui parle du Groenland et je suis tombée sur un thriller paru en octobre intitulé « Groenland, le pays qui n'était pas à vendre », signé d'un certain Mo Malheux. Il paraît qu'on dit Malheux quand le O est avec une barre au milieu.
Eh ben, il paraît, ça fait même pouf pouf, il paraît que ça fait même un moment que Mo Malheux travaille sur le Groenland.
Oui, il est l'auteur d'une série de 4 enquêtes de l'inspecteur Kanaak Adriensen qui se déroule au Groenland. Un 5e va bientôt paraître. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce Mo Malheux est aussi scandinave ou danois ou groenlandais que vous et moi. En fait, c'est un auteur français qui écrit sous pseudo et que j'ai joint au téléphone. Je lui ai demandé d'où lui venait cet intérêt passionné pour le Groenland.
C'est vrai que quand je me suis penché dessus, pour être très honnête, pas grand monde s'y intéressait. Ça m'est un peu tombé dessus par accident. Il se trouve qu'il y a très longtemps, ma marraine est allée faire un tour là-bas, ce qui était assez rare pour des Français, a fortiori une Française à l'époque, il y a plus de 50 ans. Elle m'en avait rapporté un petit objet traditionnel qu'on appelle un hookpick. Et j'avais ça depuis toujours chez moi. Et puis, presque 45 ans plus tard, celle qui est devenue mon éditrice chez La Martinière m'a un peu lancé comme un défi d'envisager un nouveau territoire de polar, un territoire qui n'aurait pas été usé jusqu'à la corde. Et puis j'ai découvert un pays absolument passionnant parce qu'il y a évidemment tous les enjeux dont les médias parlent abondamment aujourd'hui, mais qui étaient déjà présents de longue date. Et au milieu de tout ça, cette minuscule population un peu écrasée par les enjeux en question. Puis évidemment, c'est une culture passionnante parce que c'est 5000 ans d'histoire et de présence sur ce territoire très hostile, comme vous le savez. Et puis je suis allé sur place plusieurs fois et évidemment, je suis tombé amoureux du pays en y allant.
Alors qu'il en soit tombé amoureux, on le lit à chaque page de ce roman tout à fait passionnant. Et c'est un roman où il imagine un Groenland enfin devenu indépendant. Oui, ça se passe dans un futur indéterminé, mais assez proche. Le Groenland est indépendant depuis peu. Mais voilà qu'à la stupéfaction générale, le Premier ministre, Frederik Carlsen, un architecte de cette indépendance, lance une vente aux enchères du pays. Elle doit durer 5 heures. 4 nations sont en jeu, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Danemark. Cette vente est retransmise sur les chaînes du monde entier et sous les yeux médusés de milliards de spectateurs, le Premier ministre donne le top départ de cette vente. Tout le monde se demande s'il est devenu fou, si c'est un traître, et la vérité, c'est qu'il est séquestré dans une cabane, éloigné de tout, menotté à sa chaise et que sa femme et sa fille sont otages, suspendus à un câble au-dessus de la banquise.
Près de 3 milliards de spectateurs retinrent brusquement leur souffle. Sans préavis ni la moindre annonce de la part des organisateurs de ce show terrifiant, la fenêtre désertée par les représentants danois venait d'accueillir de nouveaux occupants sur l'écran. Ou pour être exact, 2 occupantes. Le monde entier comprenait sans y croire tout à fait. 2 corps attachés flottaient au-dessus d'un trou dans la banquise.
C'est un agglou.
Expliqua aussitôt à un expert des pôles sur CNN.
Un trou de phoque que les Inuits utilisent d'ordinaire pour la pêche et la chasse aux mammifères marins.
Le cartouche en surimpression de certaines chaînes précisait l'identité des 2 silhouettes. Mina et Pipaluk Carlsen. Comme si elle-même percevait les milliards de regards soudains posés sur elle, les 2 femmes s'agitèrent dans le vide, implorant une aide qui ne viendrait pas. La petite, surtout, se tortillait avec une énergie désespérée. Aucune issue ne paraissait désormais possible. Elles allaient mourir. 2 vies contre un pays. Qui aurait pu inventer un pire ou un meilleur scénario ?
On a envie de tout plaquer pour aller lire et pour finir. Lecture par Erwan Chassin, on le remercie beaucoup. 5 heures donc, Ilana, pour sauver sa femme et sa fille ou son pays. Sacré dilemme.
Oui, et surtout qu'au même moment, dans le roman en tout cas, on est au quartier général de la police qui enquête sur les ravisseurs. On est dans les rues avec les manifestants qui protestent contre la vente de leur pays. On est sur les étendues neigeuses avec un vieux chasseur. C'est la course contre la montre. Je ne vous dévoile pas le twist final, vous m'en voudriez. Mais j'ai tout de même demandé à Mo Malheux s'il était en mesure de faire un pronostic sur l'avenir du Groenland. Et bien sûr, il ne l'a pas fait, mais il m'a rappelé qu'il est périlleux de vouloir soumettre ce peuple pour exploiter ses richesses.
Par le passé, les Américains qui sont présents dans le pays depuis 1945, à peu près, 1945, ont eu quelques déboires. Tout ne s'est pas toujours bien passé pour eux, et justement quand ils oubliaient qu'on ne peut pas infléchir les choses uniquement à la force de sa volonté. Il y a un exemple qui est très frappant et très connu. Ils ont construit en 1960 une base souterraine dans laquelle ils voulaient mettre des silos nucléaires en plein centre de la calotte glaciaire, en oubliant que la calotte glaciaire en question est une sorte d'organisme vivant. C'est que ça bouge, ça travaille, ça évolue dans le temps. Et bien, au bout de 7 ans, leur base a été en quelque sorte broyée, prise en étau par la force de la glace, et ils ont dû tout abandonner, y compris un réacteur nucléaire qui faisait fonctionner l'ensemble du camp en question. Donc le camp s'appelle Camp Century. Et voilà, donc à chaque fois que des êtres humains dans cet environnement qui est sans doute le plus hostile sur Terre cherchent à imposer leur volonté en disant « on est les plus forts, on va tordre la réalité », ils se prennent un mur.
Voilà, à bon entendeur. Donc, Ilena Mor-Youssef, merci beaucoup pour découvrir le Groenland. On peut lire donc ce thriller et les enquêtes de mots malheux. Groenland, le pays qui n'était pas à vendre, publié aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup.